au Dialogue entre Congolais présenté par Alain Hirung.
Bonsoir. Adoption ce mercredi au Sénat de la loi portant statut de la police. Cette loi accorde aux policiers, en plus d'un traitement de base, des avantages sociaux, primes et indemnités. Aussi, elle fait de la police un service public, civil, républicain et professionnel. Quelle analyse faire de cette loi? Nous recevons comme invité Sébastien Adambou, sénateur de la majorité présidentielle et co-président de la commission mixte sécurité et sociale du Sénat. Sénateur, bonsoir.
Bonsoir.
Mohamed Boulé, député de l'opposition et rapporteur de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Honorable Boulé, bonsoir.
Bonsoir.
Lui, il est en ligne. Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Professeur, bonsoir.
Bonsoir.
Comme d'habitude, vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. Célestin Poutou d'Issiron en province orientale. L'adoption d'une telle loi est vraiment salutaire pour la sécurité intérieure de la RDC, mais le passage d'une police répressive à la police républicaine ne se fera pas automatiquement, parce qu'étant un problème de mentalité, il faut du temps pour cela. Fernand de Mbujimaï au Kasaï oriental. Je pense que le vote de cette loi n'était pas du tout nécessaire tant que la police est politisée au service de quelques individus. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Tel que je le disais dans le sommaire, la loi portant statut du personnel de la police a été votée ce mercredi au Sénat. Ce texte de loi accorde aux policiers, en plus d'un traitement de base, des avantages sociaux, primes et indemnités. Comprenant 264 articles, cette loi fait de la police un service public, civil, républicain et professionnel. Quelques éléments de cette loi avec vous, Samuel Kachak.
Une fois promulguée, cette loi va mettre la police nationale congolaise au diapason des autres services de sécurité. Comprenant 264 articles, cette loi fait de la police un service public, civique, républicain et professionnel. Pour le sénateur Sébastien Adambou, co-président de la commission mixte sécurité et sociale du Sénat, dans l'esprit de cette loi, les policiers vont résider désormais avec les civils en s'habituant avec eux pour gérer les problèmes de proximité et les problèmes de manifestation de façon encadrée, de telle manière que les soubresauts politiques que nous connaissons dans notre pays soient mieux garantis et mieux gérés. En ce qui concerne par exemple le recrutement, la loi met fin au recrutement intempestif. Elle stipule que tout recrutement dans la police nationale a pour objet de pourvoir à un emploi budgétaire prévu. Toujours pour les recrutements, cette loi en renforce les conditions dans la mesure où elle indique que les recrutements dans la police nationale a lieu par voie de concours, soit interne, soit direct. En plus du fait que cette loi met le policier au centre, en améliorant ses conditions socio-professionnelles, elle assure entre autres une protection par l'État contre les menaces, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit.
Merci Samuel Kachak. Sébastien Adambou, je rappelle que vous êtes sénateur de la majorité présidentielle et co-président de la commission mixte sécurité et sociale du Sénat. Sénateur, quelles sont les innovations de cette loi?
Les innovations de cette loi sont multiples. Il est certes vrai que la loi n'est pas encore devenue loi. C'est encore un projet de loi.
Un projet de loi.
Parce qu'il reste encore un processus. D'abord, la commission paritaire mixte avant la promulgation. Donc, comme innovation, ce qui est important à savoir, c'est que la recrue policier n'est engagée qu'à un niveau de 6 ans secondaires.
Donc, un diplôme d'État.
Un diplôme d'État. En deçà, il n'est pas autorisé à entrer dans le corps de la police. Et qu'en plus, pour passer d'une catégorie à une autre, il faut nécessairement passer par une école de formation professionnelle. Et pour passer à l'intérieur de catégorie, d'un grade à un autre, il faut une ancienneté, il faut une compétence, il faut qu'il y ait vacances et compétences. Tout cela, n'est-ce pas, sont des innovations pour permettre à la police d'être un service vraiment organisé et performant à même de remplir ses missions.
Alors, pour les auditeurs qui sont en train de nous suivre, je pense, sénateur, qu'il y a déjà une loi organique qui avait été promulguée sur la police. Quelle différence, au fait, pour les auditeurs qui nous suivent entre les deux lois?
La loi organique, c'est la loi numéro 011/013 du 11 août 2011. Cette loi est une loi qui organise la police en tant que corps, dans ses unités de commandement, dans ses écoles et dans son déploiement dans la République, dans ses deux branches, la branche administrative et la branche judiciaire. Mais dans cette loi également, il est également collé, n'est-ce pas, l'inspection générale de la police, qui est un organe d'audit, de contrôle, de gestion financière et du personnel de la police. Mais la loi actuelle est une loi qui porte statut du personnel de carré de la police, où se trouvent compris et la police administrative, et la police, n'est-ce pas, judiciaire, ainsi que l'inspection de la police.
Alors, par rapport à la loi, au chapitre du recrutement, hein, je reviens un peu aux éléments qu'a énuméré notre confrère Samuel Kachak, que nous avons suivi tout à l'heure. À l'article 14, on se rend compte que la loi dit par exemple que tout recrutement dans la police nationale a pour objet de pourvoir à un emploi budgétairement prévu. Ce n'est pas ce qui s'est fait maintenant. Le recrutement s'est fait un peu de manière intempestive, sénateur.
Vous avez vraiment raison. C'est ainsi que cette loi porte la réforme, consolide la réforme entamée dans la police nationale congolaise. Donc, désormais, on ne peut plus recruter s'il n'y a pas d'emploi vacant, si cet emploi n'est pas budgétairement prévu et si cet emploi ne se trouve pas dans l'organigramme de la police. Donc, les trois facteurs doivent être réunis pour qu'il y ait recrutement.
Et l'article 16, le recrutement dans la police nationale a lieu par voie de concours, soit interne, soit direct, selon les besoins exprimés. Tout ça, c'est bon, mais dans l'applicabilité, comment ça va se passer?
La loi demeure une loi. L'exécutif a l'obligation de l'appliquer telle qu'elle dispose. Dans l'applicabilité, l'exécutif trouvera des règlements nécessaires pour que cette loi soit applicable et opposable à quiconque.
Prenons cette réaction qui nous vient de Butembo, au Nord Kivu, pour vos sénateurs.
Carlos Benga de Butembo dans le Nord Kivu. À mon humble avis, cette loi est très superficielle tant qu'elle reste muette sur la démarcation entre les différentes branches de la police. Il est en effet étonnant de voir un même agent commis à la circulation routière le matin, à la garde d'une autorité la journée, à la traque d'un bandit le soir, et j'en passe.
Réaction sénateur.
Cela n'est que de pas une idée dans l'esprit. En réalité, la police, tel que vu dans le statut de la police actuelle, cela ne se passera pas comme ça, parce que la loi dispose, le projet de loi dispose que chaque policier est obligé de porter son uniforme et les insignes de son unité, ne peut pas passer d'une unité à une autre, doit rester dans son unité et dans sa mission. Et en plus, la police n'est qu'une seule police, avec trois branches: administratif, judiciaire et contrôle. C'est une seule police avec trois branches. Les gardes seront les gardes, les contrôleurs, les judiciaires, les IPJ seront les IPJ et la police administrative sera la police administrative. Il n'y aura pas de passage de part et d'autre. On peut muter cela réglementairement, mais personne ne peut sauter d'une catégorie ou d'une fonction à une autre. C'est pas possible parce que chaque emploi a un grade et une personne commis à cet emploi.
Alors, sénateur, quand vous dites que cette loi fait de la police un service public, civil, républicain et professionnel, qu'est-ce que ça veut dire, puisque l'émission est également pédagogique?
Ce que cela veut dire, c'est tout simplement que la police actuelle, vue dans cet angle-là, n'est là que pour appliquer les lois et les règlements du pays, protéger les personnes, leurs biens, éviter les tortures, les viols. Tout cela est sévèrement puni et par des sanctions administratives, en plus des sanctions judiciaires qui peuvent s'en suivre. Donc, le policier est soumis aux lois et n'exécute que les lois et les missions lui assignées par les lois et les règlements de la République.
Honorable Mohamed Boulay, je rappelle que vous êtes député de l'opposition et rapporteur de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi qui a encore un bout de chemin à parcourir pour qu'elle devienne qu'il devienne une loi. Quel problème finalement ce projet de loi vient-il résoudre?
Oui, vous savez que la Constitution de la République de notre pays n'a pas tout déterminé. Il n'y a que 6 articles qui sont consacrés en ce qui concerne la police nationale. Et comme vous savez, à l'article 186, la loi organique portant organisation et fonctionnement de la police nationale vient compléter ce que n'a pas été prévu par cette Constitution. D'une part, et d'autre part, le projet de statut ici vient également en appui pour permettre le bon fonctionnement. Parce que, vous savez, lorsque j'intervenais à la première lecture de ce projet de loi dans notre chambre, j'ai fait la genèse de cette police qui, au départ, lorsqu'on a créé la force publique, faisait corps ensemble avec la gendarmerie, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas de forces armées telles que nous les vivons aujourd'hui. On est parti avec 12 bataillons et qui se sont commis après l'indépendance avec ces 19 sous-officiers qui étaient que des adjudants en 60. Vous comprenez que par la suite, on a créé la police nationale, la gendarmerie nationale d'abord, la police nationale, la garde civile, avec chevauchement de certaines missions. Et maintenant que la constitution a tranché pour que nous ayons une police nationale, c'est en ces termes-là que nous avons ce texte de loi, l'autre promulgué, et avec, vous comprendrez, si on fait une lecture croisée de cette loi organique, on trouve qu'il y a 7 titres qui reprend des dispositions générales, des missions, des structures du personnel, des fonctionnaires, des équipements, des dispositions transitoires, et abrogatoires et finales. Mais par contre, lorsque nous nous transportons sur ces statuts qui certainement va nous appeler à constituer une commission mixte parce que nous n'avons pas adopté
dans les mêmes termes.
Il y a 6 titres, il y a des dispositions générales, du recrutement, du déroulement de la carrière, de la précarrière, du régime disciplinaire, de la procédure, des dispositions finales. Quand vous entrez dans le corps de ce projet de loi qui n'est pas encore promulgué, vous allez découvrir qu'il y a des choses que nous voudrions que cette police-là soit distincte de la police que nous avons maintenant sous nos yeux, en termes de leur recrutement, en termes de leur carrière, en termes des équipements. Ceci n'est pas la fin, parce qu'il y a aussi d'autres textes réglementaires qui viendraient compléter ceci au niveau du gouvernement. Donc, le Premier ministre, il y a des dispositions qu'il devrait prendre par des décrets pour déterminer, par exemple, en termes des équipements. Mais ceci, ce ne sont que des lois, des textes. Mais pour l'applicabilité, ça pose un problème, parce que nous avons lancé l'arsenal juridique, il faudrait que les gouvernements puissent, à terme, voir comment est-ce qu'il va appliquer ces réformes effectivement. Est-ce avec le budget national? Je dirais non. Nous n'avons cessé de le dire, moi personnellement je n'ai cessé de le dire, que pour que ceci se réalise, et ce n'est pas avec le budget que nous votons, qui est apparemment insuffisant, il faut un autre budget qu'on appelle le budget, donc la loi de programmation, qui est une loi pluriannuelle, que nous avons, moi personnellement, je suis intervenu à chaque fois que je répétais. Même lorsque le premier gouvernement de M. Antoine Kizenga est entré en fonction, nous avions posé cette question, promesse, et nous était tenu qu'à la prochaine, au prochain examen de la loi budgétaire, on viendra en appui avec ces lois. Que ce soit la police, que ce soit l'armée, il y a encore des choses à faire, ce n'est pas à notre niveau, ce sont des textes réglementaires.
Mais honorable Boulay, vu l'importance de ces textes, ne pourrait-on pas dire que nous sommes en retard, puisqu'en fait, il reste quelques jours, ce sera la campagne électorale qui va commencer, l'Assemblée nationale, vous ne vous réunissez pas, le Sénat travaille, comment ça va se passer? Ne sommes-nous pas en retard par rapport à ces lois?
Mais nous sommes certainement en retard. Vous avez raison de le souligner, de suivre comme tout le monde. Vous savez qu'il y a des choses qui auraient dû se faire depuis longtemps. Donc,
Maintenant, tout ceci, si dès lors qu'on va clôturer la session très bientôt, ceci sera versé malheureusement dans les arriérés parlementaires. Ce qui fait que la prochaine législature qui viendrait aura à travailler là-dessus, mais le déblayage a déjà été fait. Donc, ce n'est pas la volonté d'un individu que nous sommes. Vous comprenez le contexte dans lequel nous travaillons la première législature. C'est bien dommage parce que ces réformes-là étaient attendues. Donc, on aurait mis la priorité. Malheureusement, notre constitution ne fixe pas les délais en termes des lois organiques et des autres lois ordinaires. Mais le bon sens indiquait qu'il fallait tout faire pour que pendant cette législature ici, qu'il y ait tous les textes juridiques en ce qui concerne les réformes de l'armée, de la police et pourquoi pas de la magistrature et été promulgué de façon à ce que le gouvernement puisse se mettre au travail pour les concrétiser.
Professeur Bob Kabamba, vous êtes professeur à l'université de Liège en Belgique. Professeur, quelle analyse vous pouvez faire de ce projet de loi?
Merci beaucoup pour la question, surtout de m'avoir confié cette émission qui est avec un thème aussi important qui concerne justement la sécurité. Et depuis plusieurs mois, Radio Capille effectivement a mis en exergue effectivement le fait que la question sécuritaire est un des enjeux importants de l'avenir de la RDC. Et à plusieurs reprises, Radio Capille a mis en exergue effectivement aussi le fait que les services de sécurité avaient un problème en RDC. Il faut se rendre bien compte lorsqu'on parle de la loi qui a été adoptée par le Sénat, il faut le recentrer cette loi dans son contexte. Donc il faut recentrer cette loi dans son contexte de la réforme de tous les secteurs de la sécurité. Alors lorsque l'on analyse le secteur de la sécurité, on se rend bien compte que l'enjeu commence déjà depuis 2002. C'est à partir de 2002 qu'on commence effectivement à parler de la réforme de la police et aussi de la réforme de tous les autres secteurs qui concernent la sécurité. Et en 2002, ensuite il y a une date importante qui est 2005. Après 2005, on parle de 2007, au moment de la mise en place du gouvernement issu des élections. Et ce n'est qu'en 2008 qu'on commence véritablement à parler du processus de réforme de ce secteur qui est capital pour l'avenir de la RDC. Et depuis 2008, donc il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de projets, beaucoup d'appui venant des organes extérieurs. Donc, on a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour mettre en œuvre effectivement tout ce processus de rénovation et de réforme de la sécurité. Alors, lorsqu'on parle de réforme de sécurité, bien sûr, on ne vise pas uniquement que des textes de loi. Il y a aussi tout un autre contexte qui est la mise en œuvre de différents textes. Une fois avant les textes, oui, c'est bien, mais aussi il faut mettre en œuvre ces différents textes. Et la mise en œuvre de ces différents textes, c'est là aussi qui pose souvent problème au niveau de la RDC. On peut voter ce qu'on veut en termes de statut, en termes de d'avantages, en termes de garantie de droits. Mais la mise en œuvre de tout ça, c'est ça qui pose encore problème. Et de mon point de vue, c'est un pas en avant, l'adoption de ce texte, mais ce texte vient un peu tard, mais aussi sa mise en œuvre va à nouveau se faire attendre.
Professeur, en parlant des innovations dans ce projet de loi, j'ai par exemple vu à l'article 45, je vais lire un extrait, le policier a le droit de défendre les revendications sociales de la fonction policière dans le cadre d'une représentation du personnel. C'est quand même une première qu'on ait un syndicat au sein de la police.
Merci beaucoup pour la question. En fait, ce n'est pas une nouveauté. Le droit syndical est un droit qui est reconnu en fait dans tous les services publics, que ce soit au service public, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit au niveau de la police ou bien d'autres agents du service public. C'est un droit qui est reconnu au niveau de la Constitution. Et donc, cet article 45 ne fait que, entre guillemets, met en œuvre en fait ce qui est déjà adopté dans la Constitution. Dans tous les pays du monde, partout au monde, il y a des syndicats de police. Il y a des syndicats de police au Cameroun, il y a des syndicats de police partout dans d'autres pays africains. Il y a des syndicats de police qui revendiquent justement toute une série d'avantages et toute une série de droits pour les policiers. Et donc, ce n'est pas une nouveauté quand on tient compte, effectivement, du droit comparé. C'est un droit qui est reconnu déjà à tout le monde. Ce n'est pas une avancée, donc ce n'est qu'une mise en ordre, entre guillemets, de la police congolaise par rapport à d'autres structures et à d'autres polices qui existent dans le monde.
Professeur, je suis à l'article 44 de ce projet de loi. Le policier a droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection par l'État contre les menaces, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Ne faudrait-il pas en même temps, professeur, beaucoup de sensibilisation et d'éducation aussi, et également à la population qui doit beaucoup de respect aux policiers?
Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il ne suffit pas de voter des textes pour penser qu'on a résolu des problèmes. Donc, en votant des textes, on n'a pas résolu la question de fond d'abord qui concerne la sécurisation de la population et de leurs biens. Deuxièmement, en votant des textes, on ne pense pas non plus que la population sait, est au courant de ce que ça veut dire le droit d'un policier, et aussi de se rendre bien compte que ce que le policier doit donner et faire comme travail par rapport aux citoyens, ça ne veut pas dire ça. Donc, de mon point de vue, il y a tout un travail qui doit être fait et qui vont se faire, j'imagine, avec l'appui de beaucoup de bailleurs de fonds, quand je regarde en fait, tous ceux qui se sont intervenus depuis 2002, comme je l'ai dit tantôt, dans le cadre de la réforme de la police. Il y en a beaucoup de bailleurs qui se sont intervenus, et dans tous les processus, dans tous les programmes de bailleurs de fonds, il y a une dimension importante qui est la dimension société civile. C'est-à-dire qu'on essaie d'intégrer la société civile dans tous ces processus pour que la société civile joue son rôle d'éducation et de sensibilisation de la population par rapport à l'omission et ce que la population peut attendre d'un service de sécurité. Et donc, par ailleurs, je voudrais quand même souligner une chose qui est importante. Lorsque l'on parle effectivement de la réforme de services de police, on ne parle pas quand même de toute une série de services qui existent encore actuellement et qui travaillent et qui fonctionnent en marge de services de police et qui exercent les compétences de la police. Donc, ça, c'est aussi une dimension qui est importante et qui doit être prise en compte aussi bien au niveau de la réforme, mais aussi bien en tant que réforme au niveau du statut de ces différentes personnes qui interviennent pour la sécurisation des personnes et des biens.
Merci, professeur. Sénateur Sébastien Adambou, vous avez suivi le professeur Bob Kabamba. Il pense que ce projet de loi ne résout pas la question de fond qui est la sécurisation des populations ainsi que de leurs biens.
Je pense que le professeur va vite en besogne. Il n'y a rien qui peut se faire sans les lois. La loi est la pièce fondamentale pour fonder une action dans un groupe, dans une société. La loi est prise, l'exécutif qui a produit le projet de loi l'a fait pour des raisons et des motifs, l'exécutif qui est chargé d'appliquer les lois mettra tout en œuvre pour que cela marche. Parce que la coopération internationale se fait avec l'exécutif. C'est l'exécutif qui conduit la politique de la nation. Et c'est l'exécutif qui a des moyens nécessaires pour faire avancer l'État. Nous ne pouvons pas dire que l'exécutif congolais n'a pas de vision. L'exécutif congolais pousse petit à petit. La démocratie dans notre pays est en marche. Et la démocratie est un laborieux exercice, un apprentissage laborieux. La plus longue route commence toujours par un pas, un deuxième suivra et tout le reste ira.
Sénateur, je suis à l'article 52 qui stipule, je cite, « Dans l'exercice de ses fonctions et même en dehors de celles-ci, il est interdit aux policiers sous peine des poursuites de solliciter ou d'accepter directement ou par personne interposée des dons, gratifications ou autres avantages pour le service qu'il est tenu de rendre. C'est ce qui s'est fait actuellement, mais encore une fois, vous n'êtes pas l'exécutif, mais comment contrôler tout ça ?
Pour le contrôler, tout simplement, n'est-ce pas, ce qu'il convient d'abord de faire, c'est de mettre le policier dans une situation bien,
socialement
bien. Et dès que cela est fait, le service va se faire de telle manière que la police, dans sa mission, dans leur mission, il n'y aura jamais un policier pour une mission. Il va toujours y avoir deux, trois policiers pour exécuter une mission. Il va y avoir un contrôle dans le corps de la police, entre éléments de la police. Et cela va permettre à ce que ces abus, si je peux appeler ainsi abus, vont aller petit à petit diminuant. Mais nous ne pouvons pas dire que ça va changer du jour au lendemain. Il faut d'abord travailler à fond pour servir, laver la mentalité des personnes, changer de mentalité des personnes. Selon les aspects de la police de notre pays, cette réforme va s'étaler sur 15 ans. Et 15 ans, ce n'est pas demain. Donc, c'est un processus qui va aller lentement, mais volontairement. Une fois que tout cela est réuni, nous allons nous en sortir, je pense.
Alors, puisque vous faites allusion au social, sénateur, je sais qu'il y a beaucoup de policiers qui sont en train de nous suivre et qui aimeraient savoir, en fait, ce que ce projet de loi prévoit sur le plan social.
Sur le plan social, n'est-ce pas ? Il faut d'abord dire que le policier n'a pas de solde. Il a un traitement. Et son traitement de base, qui est fixé dans un décret du Premier ministre, ce traitement de base n'est pas à un coefficient qui varie selon le coût de la vie. Cela est une première. Ça, c'est un d'abord. Et en plus, il y a plusieurs primes, plusieurs indemnités, allocations familiales, au cours de carrière, allocations familiales après la carrière, avantages sociaux, même après le dauphin du pensionné, du retraité, il y a des allocations familiales qui poursuivent, n'est-ce pas, l'épouse et les orphelins jusqu'au dernier moment. Donc, sur le plan social, une fois que l'exécution de cette loi arrive à terme, le policier bénéficiera de tous ses avantages, sa famille, son conjoint, ses enfants, à la retraite, lui-même, sa famille, et après lui, tout cela est prévu dans cette loi.
Merci, sénateur honorable Mohamed Boulé. Prenons cette réaction qui nous vient de Mbujimayi au Kassai Oriental pour vous.
Bernard Mbolela, depuis Mbujimayi, Kassai Oriental. Voter la loi sur la police n'est pas du tout nécessaire, tant que la police est politisée et au service de quelques individus.
Réaction honorable.
Non, mais il est à côté de la plaque. Donc, pourquoi ne pas voter une loi sur la police? Mais ça, c'est aller en violation de la Constitution, parce que la Constitution, comme je l'ai dit ici, n'a prévu que 6 articles. Il faudrait bien qu'il y ait une loi organique qui organise le fonctionnement, l'organisation et le fonctionnement de cette police. Et en plus de ça, il faut le statut. Et donc, c'est justement cela que la Constitution a prévu pour que cela n'arrive plus. On a l'impression que cette police-là est politisée. C'est bien vrai. Parce que pendant de longues périodes, on a eu à voir cette police de cette manière-là. Et maintenant, parce que on veut faire une ligne de démarcation entre le passé et voir d'où nous venons, où sommes-nous et où allons-nous. C'est pourquoi nous avons tous le devoir de nous approprier de ces textes et des lois. Parce que ce qui arrive souvent, il y a beaucoup de textes depuis le premier texte en droit positif et jusqu'à aujourd'hui. Très peu de citoyens, de compatriotes ne s'approprient de ces textes-là. Parce qu'une fois que la loi est promulguée par le chef de l'État, publiée au journal officiel, 30 jours après, ça devient opposable à tous. Si je posais la question à notre interlocuteur de tout à l'heure, pour lui demander est-ce qu'il a en sa possession la Constitution, je serais risqué de répondre qu'il n'en a pas. Qu'a-t-il fait pour ne pas l'avoir? Parce qu'il faut, nous devons nous approprier de ces textes-là. Nous sommes donc élus, nous sommes mandatés pour voter des lois, pour prendre des initiatives en leur lieu et place, et alors, une fois que ces lois sont promulguées, c'est notre affaire à nous tous pour pouvoir les appliquer. Et si on ne connaît pas ces lois, comment voulez-vous qu'on puisse dénoncer les méfaits que commettent ici et là certains policiers, si pas à divers niveaux des échelons? Et donc, nous avons intérêt à nous doter des lois qui concernent la police et tout comme les forces armées et pourquoi pas les services de sécurité.
Félix Swami de Guémena à l'Équateur, voter les lois et les adopter, c'est facile, mais les appliquer, c'est la mer à boire en RDC. Jacques de Bukavu Sud Kivu, c'est un bon signe pour le Sénat de voter cette loi qui arrange notre police, mais je me demande si elle ne demeurera pas un vœu pieux comme d'autres. Honorable Odiane Paulin, depuis Kikwito Bandundu, la RDC est l'un des pays au monde réputé avoir des instruments juridiques les mieux structurés. Malheureusement, la volonté politique ne suit pas l'esprit de ces textes. Dieu seul sait si les avantages accordés par cette loi seront réellement liquidés. Lisungi Pépé de Kisangani en province orientale, à chaque fois notre gouvernement crie toujours au manque de moyens. Je me demande alors d'où viendront les moyens proposés dans cette loi pour notre police. Tant que les lois votées dans ce pays ne seront pas respectées par le gouvernement, ce pays n'ira pas loin sur tous les plans. Honorable Boulet, vous êtes revenu sur le doute quant à l'application par rapport au budget. Avec quel budget? Cela ne va-t-il pas décourager les policiers qui sont en train de vous suivre?
Mais pas du tout, pas du tout. Le gouvernement dispose de cette, disons, de cette ouverture. En plus de la loi budgétaire, le gouvernement, en une matière donnée comme celle-ci, en ce qui concerne la police, le gouvernement devait en même temps apporter la loi de programmation. J'insiste, c'est une loi pluriannuelle qui peut couvrir 5, 10, 15 ans. Là, ce sont des prévisions. C'est en quelque sorte un chèque à blanc pour dire, voici, vous m'avez doté, vous avez promulgué, on a le président de la République a promulgué des lois sur la police nationale, je ne disposerai pas de ces moyens-là de par les budgets nationaux. Par conséquent, je voudrais que vous nous donniez un quitus pour pouvoir, parce que dans notre domaine, donc dans la relation bilatérale, multilatérale, pour nous permettre d'aller chercher ces budgets-là, une fois que nous aurons obtenu ça, nous allons chaque fois fractionner pour pouvoir répondre aux exigences. Parce que la formation a un coût, le social aussi a un coût, et d'autres équipements, l'acquisition des équipements, et la formation continue. Et bien entendu, on n'est pas recruté pour rester éternellement à l'armée, mais à un certain moment, lorsqu'il faut prendre sa retraite, il faut la prendre de manière honorable. Le sénateur l'a si bien dit, ceci nous permet, face à ces textes des lois, le gouvernement a le devoir de prendre d'autres dispositions réglementaires et de revenir par devant l'Assemblée nationale défendre ces initiatives-là pour que nous puissions leur donner l'équité. En ce moment-là, ils vont chercher des budgets.
Professeur Bob Kabamba, prenons cette réaction qui nous vient d'ici, de Kinshasa, évidemment pour vous.
Christophe Mabana, depuis la commune de Kimansé, qui est ville de Kinshasa, je pense que l'adoption de la loi au Sénat en faveur de la police nationale congolaise est une fiction et n'apporte rien aux bénéficiaires de celle-ci, étant donné que l'État congolais est incapable de mettre les fonctionnaires publics dans les bonnes conditions de vie. Tel est le cas des enseignants et militaires, pour ne citer que ceux-là.
Un peu dans le même ordre d'idée, professeur Boni de Bénionor Kivu, moi je pense que c'est une loi qui sera mise au frigo comme tant d'autres. Aussi, je me demande à qui l'appliquera. Kassamba de Bounia en province orientale, les lois dans ce pays ont été toujours bien élaborées, mais l'applicabilité a toujours posé des problèmes du fait qu'en les rédigeant, le législateur oublie souvent de tenir compte des moyens de sa politique. Professeur, vous avez également relevé le problème de l'applicabilité de loi dans ce pays. Et par rapport à ce projet de loi, allons-nous dire finalement qu'il n'aura comme seul mérite que d'exister?
Non, je ne pense pas. Effectivement, c'est un premier pas, comme je l'ai dit, au fait, c'est un processus dans l'établissement de l'état de droit par rapport à toute une série d'obligations. Je pense que, comme vous l'avez vous-même dit, par rapport à l'article 45 de cette loi, qui précise effectivement que le droit syndical reconnu à la police nationale congolaise, surtout à tous les policiers, je pense que cet article et la possibilité pour les policiers de pouvoir se constituer en syndicat va être un élément important, qui va être un élément important qui va permettre justement la mise en œuvre de dispositions qui sont comprises dans cette loi. Je peux me référer à d'autres cas où on a eu de plusieurs syndicats, plusieurs fonctions et fonctionnaires qui ont pu obtenir gain de cause dans leurs demandes et dans leurs revendications grâce à la lutte qu'a menée toute une série de syndicalistes, et cela a permis de pouvoir arriver à avoir toute une série d'accords et la mise en œuvre de certaines dispositions légales. Je pense aussi que les policiers ont maintenant un outil juridique qui leur permet de se fédérer, de se syndiquer, et par rapport à leurs droits, de pouvoir revendiquer que ces différentes dispositions soient en mise en œuvre. Par exemple, actuellement, j'imagine, je ne vais pas commencer à donner des leçons aux policiers qui sont en fonction et qui doivent être fort sollicités en cette période de pré-campagne électorale. Par exemple, je vais donner un exemple en disant que lorsque le Parlement doit adopter le budget, je pense qu'il est important que le syndicat qui va être constitué des policiers aille revendiquer au niveau du Parlement congolais, demander au niveau du Parlement congolais que le Parlement congolais, en tant qu'autorité budgétaire, puisse effectivement inscrire les budgets pour la police de manière très claire, conformément à la loi. Mais là aussi, il ne suffit pas d'inscrire les budgets pour penser que le budget pourra être débloqué. Il faudrait que les syndicats soient vigilants, c'est-à-dire suivre tous les processus de décaissement et de non seulement des décaissements, mais aussi de disponibilité des moyens budgétairement votés, soient mis effectivement aux policiers. Et là aussi, ce n'est pas encore fini. Il faut aussi que les syndicats se rendent bien compte qu'ils doivent déployer des efforts pour que les budgets qui sont alloués à la police arrivent effectivement aux bons policiers et aux bons policiers et aux bonnes mains. Donc chaque policier doit avoir ce qui a été voté pour lui. Ça veut dire de manière très claire, je pense que le salut et la remise en ordre, entre guillemets, de ce qui a été voté par rapport à la réalité passe par, de mon point de vue, par le droit syndical. Et aussi, je dois aussi souligner aussi le travail de la société civile qui doit être important et qui doit permettre justement de pouvoir interpeller et dénoncer lorsque à chaque fois on a des fonctionnements entre le texte de loi et la mise en œuvre de ce texte de loi qui a été adopté.
Sénateur Sébastien Adambou, je rappelle que vous êtes sénateur de la majorité présidentielle et coprésident de la commission mixte sécurité et sociale du Sénat. Je suis à l'article 98-98. La commission d'avancement en grade comprend 2 délégués de la présidence de la République, 2 délégués du cabinet du Premier ministre, 3 délégués du ministre des Affaires intérieures, les délégués de toutes les structures de la police nationale. Ça ne fait pas trop de monde au point de redouter des pressions, comme c'est d'ailleurs le cas que dénoncent beaucoup d'analystes.
Cet article 98, dans sa forme finale adoptée par le Sénat, ne retient pas les délégués de la présidence ni les délégués de la primature. Le texte du Sénat ne retient que les 3 délégués du ministère des Affaires intérieures et les délégués de toutes les structures de la police nationale. Toutes les structures, pour quelle raison? Parce que l'avancement en grade tient compte d'abord de l'emploi, de la compétence et de l'ancienneté. Lorsqu'on parle compétence, on parle justement de l'évaluation, de la notation, du signalement. Comment l'agent en question a été coté pendant les 3 dernières années. Et pour cela, il faut que toutes les autorités chargées de la gestion des ressources humaines de tout le pays gérant la police puissent se retrouver pour étudier le dossier de chaque policier apte à l'avancement en grade. Cela est arrêté dans ce sens-là.
Honorable Mohamed Boulay, je rappelle que vous êtes député de l'opposition et rapporteur de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Nous parlions tout à l'heure du syndicat, mouvement syndical au niveau de la police nationale, mais on sait que vous êtes, pour les auditeurs qui ne le savent pas, vous êtes général à la retraite. On sait que la police comme l'armée, ce sont des services commandés. Le mouvement syndical subit également beaucoup de pression. Comment au niveau de la police, mouvement, comment la police pourrait-elle s'en sortir?
Merci beaucoup.
Malheureusement, je n'ai pas cette monture-là du Sénat pour me rendre compte, parce que le texte que moi j'ai ici, c'est celui-là que nous avons voté le 6 juin 2011 en première lecture. Et certainement, quand nous allons examiner ces questions-là, je ne crois pas, parce qu'il y a beaucoup, 260 articles, lorsque nous avons eu à examiner ça, le problème des syndicats s'est posé. Mais je n'ai malheureusement pas les textes pour pouvoir réagir. Tout comme l'armée, vous savez, il y a des exigences. C'est un service obligatoire. Donc, le règlement militaire, d'une part, en ce qui concerne l'armée, et aussi en ce qui concerne la police nationale, le code de conduite a certainement des exigences. Et donc, qu'adviendrait-il si, dès lors que les policiers revendiquaient, de par leur syndicat, à ce moment-là, que va devenir le pays, la nation? Donc, je n'ai pas cette monture-là, et je ne crois pas que lorsque nous avons eu examiné, que nous soyons mis d'accord en termes de commission, même la plénière pour cela. Voilà. Donc, je me réserve sur cela, parce que je n'ai pas ce texte-là tel que vous énoncez.
Voilà, donc moi j'ai le texte du Sénat, et comme nous l'avons dit dans cette émission, il y aura une commission paritaire qui va harmoniser Sénat-Assemblée nationale, qui va harmoniser tous les
termes. Néanmoins, nous allons, tout cela appelle de notre part que nous puissions faire, en termes de droits comparés, qu'est-ce qui s'est passe dans les autres polices ici africaines ou à travers le monde pour savoir est-ce que cette forme-là nous convient ou pas en ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Si dans d'autres polices cela existe, bon, nous allons certainement examiner la question sans passion et tout ça pour nous permettre donc de trouver le juste milieu pour que nous ne tombions pas dans notre propre piège.
Professeur Bob Kabamba, il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Je vous repose la question concernant les syndicats au niveau de la police. L'honorable Boulay a parlé du droit comparé. Comment ça se passe ailleurs? Est-ce faisable ici chez nous?
Merci pour la question. Je pense que c'est l'honorable a tout à fait raison de dire, hein, de s'inspirer du droit comparé. Parce que il faut pas inventer l'eau chaude, hein, et de mon point de vue, il y a beaucoup de choses qui se font ailleurs, et sur lesquelles la RDC peut s'inspirer sans copier. Bien sûr, il faut pas copier, il faut chaque fois tirer de sa propre expérience. Mais ce qui est important, c'est qu'ailleurs, ça se fait. Je vais vous prendre l'exemple de la Belgique. En Belgique, on a eu toute une série de corps de police. Il y avait la cour de police locale, il y avait la gendarmerie, il y avait aussi la police judiciaire. Et chaque corps avait, entre guillemets, ses compétences, et il y avait toute une série de problèmes liés au conflit de compétences entre ces différentes polices. Et ces différentes polices, avec leur fonctionnement, a amené à des cas très malheureux, très connus dans le collectif, la mémoire collective belge. C'est-à-dire, on a eu le cas de Julie et Mélissa, c'est très connu ici en Belgique, et où la police a complètement raté son travail, et à partir de ce moment-là, il y a eu des revendications pour la réforme, justement, du secteur de la police. On a tout réformé, et les syndicats de la police se sont impliqués de manière proactive pour justement arriver à que cette réforme réponde aussi bien aux préoccupations de la population,
merci,
mais aussi tienne compte des réalités du corps de la police, de la gendarmerie et de la police judiciaire.
Merci.
Je pense que de la même façon par rapport à l'RDC, il y a plusieurs corps de police, il y a plusieurs structures, il y a plusieurs institutions, il y a l'AMR, il y a la DGM, il y a les douanes, etc.
Qui donc vous pensez que c'est faisable?
De police. Donc, de mon point de vue, c'est un plus que de s'en inspirer. S'inspirer ne veut pas dire copier.
Merci, professeur Bob Kabamba. Sénateur Adambou, un processus qui va prendre 15 ans en guise de conclusion, cela ne va-t-il pas décourager les policiers qui travaillent maintenant?
Non, je ne pense pas. Je voudrais souligner, n'est-ce pas, pour la mise en œuvre de ces lois portant réforme des services de sécurité, n'est-ce pas, il faudrait que tout le pays prenne l'affaire en main, les gouvernants, les autorités, comme la population. On dit que le Congo n'a pas d'argent, mais qui doit produire l'argent pour le Congo, pour le gouvernement? C'est les Congolais lui-même. Il faut que chaque Congolais mette la main dans la pâte pour qu'ensemble, nous puissions faire notre pays le plus beau pays du monde.
Merci, honorable Boulay. Un mot en guise de conclusion.
Oui, un mot en guise de conclusion. Je crois que dans tous ces textes, pour tous ces textes ici, il faut un leadership exemplaire. Il faut prendre des mesures courageusement et pouvoir faire une programmation, un bon planning pour pouvoir disposer des ressources. Et lorsqu'on dispose de ces ressources-là, il faut savoir les affecter correctement. Merci. Et pour cela, c'est cela la clé de la réussite.
Merci à Guy Maté, Héritier Sidiakala, Pélékipéla, Samuel Kacha qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci également à vous qui avez été très nombreux à nous suivre. Bonne suite au programme sur Radio Capitole.